Bah, je pense que la difficulté la plus grande, c'est sans doute paradoxalement sur la période récente, sur les patrimoines. Je pense que c'est vraiment très difficile de savoir l'évolution toute récente, actuelle, et même le niveau actuel d'inégalité des patrimoines. C'est beaucoup plus difficile à connaître qu'au XIXe siècle, dans le fond. Parce qu'au XIXe siècle, l'impôt est tellement bas que personne ne cherche à le contourner. Et puis, il n'y a pas toutes ces possibilités de placement à l'étranger, etc. Donc... Et puis bon, l'impôt en France, l'impôt successoral au XIXe siècle, c'est 1%, 2% maximum en ligne directe. Donc finalement, c'est plus une façon d'enregistrer sa propriété, 1 ou 2% une fois par génération. Donc c'est pas du tout 1 ou 2% par an, c'est 1 ou 2% tous les 30 ou 40 ans. Donc finalement, faire enregistrer sa propriété pour 1 ou 2% de sa valeur une fois tous les 30 ou 40 ans, ça permet justement, si vous avez des manants qui veulent saisir de votre bien, ça permet d'appeler la force publique pour les en déloger. Donc c'est tout bénef. Enfin, il n'y a pas de contournement de l'impôt à ce moment-là. Donc quand on mesure l'inégalité des patrimoines à Paris en 1910, je pense qu'on peut être à peu près sûr qu'on mesure ce qu'il y a à mesurer. Quoi. Et puis bon, vous possédez des immeubles, vous possédez des actions, vous avez tout intérêt à les enregistrer vu le faible impôt que vous payez. Aujourd'hui, c'est une toute autre histoire. Hein, aujourd'hui, quand on mesure... l'accroissement des patrimoines les plus importants avec des données fiscales, c'est évident qu'on en rate une bonne partie. Enfin, on vit quand même dans une époque où le ministre du budget peut avoir un compte en Suisse et se dire qu'il va passer au travers des gouttes. Enfin, c'est quand même assez étonnant quand même. Donc après, on peut être à peu près sûr qu'on n'a pas retrouvé le niveau de concentration du patrimoine d'il y a un siècle parce que simplement il y a plus de gens qui possèdent du patrimoine. Et il y a un siècle. Et ça me permet aussi d'évoquer un point important. Enfin, il y a beaucoup de points importants que je n'ai pas évoqués, mais un des points importants sur la représentation par décile, par centile. Oui, c'est vrai, le monde, il est toujours continu. Ça, c'est la réalité. Il y a toujours... il n'y a pas de société avec un gouffre béant entre deux classes. Il y a toujours des gens entre les deux. Mais il y a quand même des sociétés où le nombre de personnes entre les deux est très, très, très réduit. Et la concentration des patrimoines en France, il y a un siècle... C'est vraiment un monde où on passe de presque rien à beaucoup, beaucoup. Et là, la pente est très, très forte. C'est-à-dire que la pente à l'entrée dans le décile supérieur vous fait passer d'un monde où, en gros, vous n'avez rien à laisser. Le peu que vous possédez, ça permet à peine de payer vos frais d'inhumation, quoi. Vraiment, des draps, vraiment presque rien du tout. À un monde où vous possédez suffisamment pour ne jamais travailler. Et le passage de l'un à l'autre, même s'il est continu, je crois quand même que la méthode par décile, par centile, permet de comprendre justement quand est-ce que le monde est presque discontinu. C'est-à-dire plutôt que de supposer a priori que certaines sociétés se caractérisent par une inégalité radicalement discontinue entre les propriétaires et ceux qui ne possèdent pas, partir du principe qu'elle est continue, mais que dans certains cas, la courbe que ces centiles et déciles vont nous révéler a une pente invraisemblable. Très concrètement, ce qu'on voit sur la répartition des patrimoines d'il y a un siècle et qu'on n'a pas quand même aujourd'hui, malgré les incertitudes, c'est que en dehors des 10% les plus riches, dès que vous tombez un peu en dessous, les gens sont juste presque aussi pauvres que les 50% les plus pauvres. C'est-à-dire que vous tombez presque immédiatement dans le lot des 90% du bas. Donc même si la répartition est continue, on bascule très très dans quelques... Il y a presque personne entre les deux. Donc je crois que la méthode, là, ne revient pas à masquer la réalité. Elle permet au contraire de la faire apparaître de façon extrêmement violente lorsqu'elle est celle-là. Alors aujourd'hui, malgré les incertitudes qu'il y a, et on voit bien, je crois que chacun le voit, il y a une classe moyenne patrimoniale qui ne possède pas forcément énormément, mais 100 000, 200 000, 300 000 euros, c'est pas zéro hein, en pourcentage du patrimoine national. Mais jusqu'où les inégalités patrimoniales ont recommencé à monter, et où on est exactement actuellement, et où on sera exactement dans 10 ans, très franchement... Personne n'en sait rien, parce que c'est vrai que là, on se retrouve dans une situation où, en gros, les instituts statistiques officiels vous décrivent un monde de classe moyenne, et les magazines vous décrivent un monde avec Bill Gates. Mais sauf qu'entre les classes moyennes et Bill Gates, il y a beaucoup de monde. Et entre les deux, notre capacité à observer l'évolution fine des patrimoines au niveau de 1 million, 2 millions, 5 millions, 10 millions, 100 millions d'euros, donc tout le passage de quelqu'un qui aurait quelques centaines de milliers à quelqu'un qui a plusieurs centaines de millions, tout ce passage-là... est très très mal connu. Donc moi j'essaye de faire de mon mieux dans le livre en rassemblant les différents types de sources qu'on a, mais très franchement, j'essaye de le dire dans le livre, je les limite à nos connaissances. Et je pense que là pour le coup c'est quelque chose d'assez grave, parce qu'on peut se retrouver un beau matin avec un monde beaucoup plus inégalitaire que ce qu'on avait en tête, que ce qu'on pensait. Et je pense que le... Le cas de la France de la Belle Époque, de ce point de vue-là, est passionnant, parce qu'on a un système qui, en principe, est un système fondé sur le suffrage universel, enfin, au moins masculin, et qui, pourtant, ne répond pas. Le système ne répond pas à l'inégalité extrême qui caractérise le monde de l'époque. Le cas des États-Unis, aujourd'hui, est un peu différent, parce qu'il y a cette croissance perpétuelle qui fait que les États-Unis, quand même, se renouvellent, leurs élites se renouvellent, leurs pauvres se renouvellent. Une bonne partie des pauvres américains sont pas nés aux États-Unis actuellement, donc c'est ce renouvellement de la société américaine qui la rend supportable, et en même temps, on a quand même un degré de capture du pouvoir politique par moment qui fait penser à des dérives de la. À un moment, je dis de façon un peu ironique dans le livre, voilà, est-ce que les États-Unis seront la nouvelle vieille Europe de la planète ? En tout cas, le processus politique, le patrimoine moyen des 400 représentants américains au Congrès, et si on rajoute les 100 sénateurs, est actuellement d'une vingtaine de millions de dollars par tête, ce qui est beaucoup par rapport à la moyenne américaine, qui est à peine à 200 000, 150 000, 200 000 dollars. Donc en France, d'après les publications des patrimoines de nos ministres, ils étaient à 1 million d'euros en moyenne, là, quand ils ont publié ça. Ce qui est déjà beaucoup au-dessus de la moyenne, mais ce qui est plus faible que 20 millions. En même temps, c'est sur 30 personnes, et on ne sait pas très bien. Bon, et visiblement, les députés, dans une audace rare, ont décidé de désobéir au président de la République sur ce point, au moins, après avoir voté la hausse de la TVA et toutes sortes d'autres amusements par rapport à ce qu'ils avaient promis avant. Ils ont décidé que sur la publication de leur patrimoine, ils auraient l'audace de dire non au pouvoir exécutif et de lui rappeler que c'était eux qui votaient la loi. Donc on ne saura pas le patrimoine des députés. Et donc on ne pourra pas faire le même calcul. Enfin, en tout cas, dans le cas américain, on est dans un cas de capture du pouvoir qui peut être quand même gênant. Après, sur notre capacité à développer le système aussi d'observation. Moi, ce livre, c'est aussi un appel aux chercheurs, aux instituts statistiques, à essayer de reprendre en main cette description des classes sociales, des inégalités de fortune, et de ne pas laisser ça. Et ce qui m'inquiète un peu actuellement, c'est qu'on a, oui, on a soit les classes moyennes des rapports de l'INSEE, soit les Bill Gates dans Forbes, ou alors on a ces institutions financières internationales, là, le Crédit Suisse, tout ça, qui tous nous sortent sur papier glacé des rapports sur la fortune dans le monde, et ils deviennent des nouveaux producteurs désintéressés de statistiques pour le bas peuple du monde. Sauf qu'ils le font avec des biais gigantesques, avec une explicitation de leur méthode et de leurs sources à peu près nulle. C'est très embêtant. Et en même temps, c'est la nature hors du vide. Donc tant que les chercheurs ne feront pas mieux, ou que les instituts ne feront pas mieux, ces choses-là tiendront lieu de grille de lecture aux évolutions en cours. Donc non, là, il y a une vraie limite de notre appareil d'observation, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est une très bonne question, et l'inflation illustre parfaitement ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que l'histoire invente ses propres voies et inventera ses propres voies, et l'inflation pourra tout à fait faire partie des réponses, et a souvent fait partie des réponses dans le passé. Et c'est sans doute plus réaliste de penser que l'inflation, par exemple, va réduire les dettes publiques européennes un jour, pas tout de suite, mais un jour, que l'impôt progressif sur le capital. En tout cas, historiquement, l'inflation a joué un rôle central pour réduire les grosses dettes publiques. Alors maintenant, est-ce que c'est souhaitable ou pas ? Quelle est la meilleure solution ? Bon, le problème, disons, l'impôt progressif sur le capital, c'est un peu la forme civilisée de l'inflation. C'est-à-dire que c'est la même chose, sauf que vous pouvez protéger les plus faibles et mettre plus à contribution les plus riches, parce que vous avez des tranches d'imposition disant, voilà, jusqu'à 100 000 euros, 200 000 euros, je protège les dépôts. Entre 200 000 et 500 000, je leur demande 1% d'effort. Entre 500 000 et 1 million, 3%. Enfin, vous voyez, c'est le monde idéal, quoi. C'est le monde où on se met tous d'accord, on voit la capacité contributive de chacun et on fait payer chacun. Bon, mais même si c'est idéal dans sa forme parfaite, on peut quand même essayer de s'en approcher, d'essayer de faire quelque chose qui s'en approche. Parce que le problème de l'inflation, c'est que c'est parfois le contraire de cet idéal. C'est-à-dire que les dépôts bancaires non protégés de l'inflation, type les gens qui ont un livret A, un livret d'épargne, se font massacrer. Et inversement, ceux qui ont un portefeuille en actions, un portefeuille immobilier, ne craignent absolument pas l'inflation, parce que le prix de leur immobilier, le prix de leurs actions va augmenter au moins aussi vite que les... Donc, C'est une forme très violente de redistribution de l'inflation qui réussit très bien, dans le sens qu'elle réduit la valeur des dettes publiques à zéro, mais elle réduit beaucoup d'autres choses à zéro. Hein. Donc en France, en 1945, on a cet impôt de solidarité nationale qui est un impôt progressif sur le capital. On a aussi l'inflation qui, en 1945, 46, 47, 48, 49, est de plus de 50% par an. Donc quand vous avez plus de 50% par an d'inflation 4 années de suite, il n'y a plus de dette publique. Donc la dette publique en France, elle est réduite en 1950 à rien. 20% du PIB, tout ça. Donc ça marche très bien. Le seul problème, c'est qu'on a aussi fait disparaître toute l'épargne bancaire de plein de gens. Et après, on se retrouve à créer le minimum vieillesse en 1956, parce que vous avez juste plein de gens, personnes âgées, qui n'ont plus aucune réserve bancaire, enfin, qui n'avaient pas forcément grand-chose, mais qui au moins avaient un petit quelque chose. Et personne ne leur a remboursé. Hein. Donc l'inflation, c'est bien, mais l'impôt progressif sur le capital, avec des tranches où vous regardez et éventuellement vous donnez des transferts à ceux qui n'ont rien et vous prenez plus à ceux qui ont plus, bon, bah, c'est quand même plus satisfaisant pour l'esprit, et pas seulement pour l'esprit, aussi pour dans la réalité. Donc après, quand vous avez des niveaux de dette publique pareils, si vous essayez, de l'ordre de ce qu'on a actuellement en Europe, si vous essayez de les réduire sans impôt progressif sur le capital et sans inflation, là, ça prend vraiment très longtemps. C'est-à-dire que c'est exactement le cas du Royaume-Uni au 19e siècle que je décris dans le livre, qui a fait un siècle d'austérité budgétaire. Donc effectivement, ça a marché, mais ça a pris un siècle. C'est-à-dire que littéralement, ils sont sortis des guerres napoléoniennes avec 2 années de PIB en dette publique, alors que la France avait balayé ses dettes publiques par la banqueroute des deux tiers et par l'inflation révolutionnaire. Les Royaumes-Unis ont fait ça de façon... plus civilisés en repayant leurs dettes, sauf que c'est tellement civilisé qu'en fait ils ont fait un transfert aux rentiers domestiques britanniques pendant un siècle, et de fait les contribuables britanniques, qui étaient plutôt des catégories modestes et moyennes, qui payaient des impôts sur la consommation, des impôts sur les boissons, enfin des impôts payés par tout le monde, une bonne partie de ces impôts a servi à payer les intérêts de la dette aux héros de Jane Austen ou autres, qui avaient accumulé des énormes stocks de dettes publiques en 1810-1815. Donc pendant un siècle, le Royaume-Uni a versé plus en intérêt de la dette chaque année qu'il n'investissait dans son système éducatif. C'est-à-dire toutes les dépenses publiques sur l'éducation étaient 2 ou 3 fois moins que ce qu'on versait en intérêt de la dette. Et moi, j'ai assez peur que l'Europe fasse un peu la même chose là maintenant. C'est-à-dire qu'on se retrouve à vouloir réduire la dette uniquement par des surplus budgétaires. Bon, ça peut marcher, mais ça peut prendre très très longtemps. Et là... Mais c'est vrai que c'est assez incroyable de voir que les autres pays riches sont plus pragmatiques. L'inflation l'an dernier en Royaume-Uni était de 4,5%, elle est de 3,5% cette année. Donc, mine de rien, avec une inflation à 3-4%, vous réduisez la dette publique beaucoup plus vite qu'avec une inflation là, qui est tombée à 1% en zone euro. C'est quand même assez fou que les pays d'Europe continentale, la France et l'Allemagne, qui sont les pays qui ont le plus utilisé l'inflation pour se débarrasser de leur dette au XXe siècle, vont finalement se retrouver, alors en partie du fait de la violence de l'outil inflation aussi, mais, et des traumatismes qu'il a laissés, mais vont se retrouver aujourd'hui à être beaucoup plus orthodoxes que le Royaume-Uni et les États-Unis, qui, eux, ont beaucoup plus hésité au XXe siècle avant de liquider leur dette dans l'inflation. Et c'est là que ces représentations collectives sur l'économie, sur le budget, sur l'inflation, sur les patrimoines, sur les dettes, sont très importantes, parce qu'elles laissent des traces durables. Et ces connaissances intuitives qu'on se passe de génération en génération sur l'inflation, elles ont évidemment une très grande valeur, et en même temps, parfois, elles sont un peu rigides. Hein. Et donc, remettre en perspective ces événements, ça peut peut-être contribuer à introduire un peu plus de souplesse dans tout cela, mais bon... Alors là, il y a des éléments de réponse pour l'avenir, mais qui sont simplement des simulations à partir des taux de croissance actuels et des taux d'épargne actuels dans les pays asiatiques, qui font que la part du capital mondial, si on poursuit actuellement, comme l'Asie représentera les 2/3 du PIB mondial d'ici 2070, avec les taux d'épargne actuels, ils représenteront la même part du capital mondial. Bon, ça, c'est des projections pour l'avenir qui valent ce qu'elles valent, qui se fondent simplement sur les projections actuelles de l'ONU en termes de croissance de la population et de taux de croissance et de taux d'épargne. Ça, c'est pour l'avenir. Pour le passé, les données historiques en dehors de l'Europe, des États-Unis et du Japon sont quand même beaucoup plus limitées. Donc c'est vrai que le livre tourne beaucoup sur l'expérience historique de l'Europe, des États-Unis et du Japon. Alors en même temps, on essaye de rassembler, de faire rentrer dans nos bases de données le plus de pays émergents possible. Alors il y a certains en particulier de l'époque coloniale. Donc c'est vrai que, par exemple, il y a beaucoup de puissances coloniales qui ont introduit l'impôt sur le revenu assez tôt dans leurs colonies, donc qui permettent de remonter dans le temps. Car en général, quand on a un problème de source, quand on remonte, disons, avant les années 60-70, c'est très difficile. Mais dans certains cas, on peut, c'est-à-dire que l'Inde, par exemple, les Britanniques créent un impôt sur le revenu en Inde en 1922. Donc il y a dans le livre des séries sur les hauts revenus en Inde. Les Néerlandais font la même chose en Indonésie dans les années 20. Les Français font la même chose en Indochine dans les années 20-30. Mais là, on est en train d'exploiter les données actuellement, sur beaucoup de données de l'époque coloniale qu'on est en train d'utiliser actuellement, donc que j'utilise un petit peu dans le livre, mais de façon très, très limitée. Bon, en un mot, les chocs liés aux guerres ont été moins violents, évidemment, beaucoup moins violents, mais il y a quand même eu des chocs en retour liés à une mobilisation de ressources pour les guerres qui avaient lieu en Europe, donc en particulier à travers des endettements publics très forts avec des ressources redirigées vers l'Europe. Bon, l'évolution mondiale pour la première partie du XXe siècle est quand même très déterminée par l'Europe, hein, puisque l'Europe, en 1913, d'après les comptes de Madison, tout ça fait la moitié du PIB mondial. Donc entre 1900 et 1980, l'Europe et les États-Unis font entre 70-80% du PIB mondial. Donc forcément, ça pèse lourd dans le total mondial. Donc il reste que même si ces histoires coloniales ou brésiliennes ou africaines ne pèsent pas beaucoup dans le PIB mondial pour la première partie du XXe siècle, j'aimerais évidemment être capable de les étudier, mais voilà, les données sont parfois... Disons, ce qu'on voit pour l'instant dans les données coloniales, aussi bien pour l'Indochine française de l'entre-deux-guerres ou sur l'Inde, c'est qu'on a une structure d'inégalité, enfin, c'est pas vraiment surprenant, mais qui est très différente en France ou au Royaume-Uni. C'est-à-dire que on a moins une très forte concentration des patrimoines au sommet, mais plutôt un petit groupe d'administrateurs coloniaux ou de très hauts salaires indigènes liés à des promotions dans l'appareil colonial, qui sont, alors là, 50, 100 fois, 200 fois le revenu moyen du pays, donc avec un niveau de concentration des revenus plus élevé encore que ce qu'on observe en Europe à la Belle Époque, mais avec une structure très différente, quoi. C'est beaucoup de salaires d'administrateurs coloniaux. Alors en plus, l'administration française était très, très enthousiaste dans ses dépouillements fiscaux, c'est-à-dire qu'elle dépouillait tout le temps systématiquement différemment les indigènes et les Européens, alors que les Anglais sont un peu plus hésitants et ont tendance à mettre tous les contribuables, quelle que soit la couleur de leur peau, dans la même colonne. Mais ce qui donne une richesse particulière à la source française, car elle permet de voir l'arrivée ou la non-arrivée d'élites locales dans l'entre-deux-guerres ou dans les années 50. Mais toutes ces données historiques de la période coloniale sont encore en cours d'exploitation. Et bon, j'en saurai plus un jour ou l'autre. Ça, c'est compté dans les revenus du travail, hein, les stock options. Là, tu es complètement compté dans les revenus du travail. Bon, c'est parce que dans le sens où c'est quelqu'un qui est dans une position de cadre dirigeant qui obtient ça, c'est pas en tant qu'actionnaire pur. Après, ça se mélange, c'est-à-dire que sa capacité d'action, d'influence peut être d'autant plus forte qu'il possède lui-même une part du capital. Mais dans les données là, c'est toujours inclus. Dans la part du capital que je vous ai montré là, c'est vraiment minimaliste, hein, c'est vraiment du rendement pur du capital. Ça exclut les sociétés individuelles, ça exclut les stock options, c'est vraiment c'est sans doute plutôt minimal. Bon, alors, ce livre-là ne parle vraiment pas vraiment de réforme fiscale en France. C'est-à-dire que la question de la CSG, de l'impôt sur le revenu, tout ça n'est pas du tout traité dans ce livre. Je crois qu'il y a peut-être une note de bas de page qui y fait référence, mais c'est pas... Là, je prends une perspective qui est beaucoup plus internationale et qui est beaucoup plus de très long terme. Donc, quand je parle de l'impôt progressif sur le capital ou des différents modes de régulation du capital en Chine, en Russie, aux États-Unis, bon, l'enjeu l'enjeu pour nous, concrètement en France, c'est plutôt un enjeu européen de coopération fiscale européenne. Moi, si on veut chercher un débouché opérationnel de ce livre dans le monde vraiment actuel, moi, ce livre n'est pas fait pour avoir des débouchés politiques immédiats. C'est un livre de réflexion, c'est un livre d'histoire. Si tant est qu'il puisse influencer quoi que ce soit, ce serait à assez long terme. Enfin, je veux dire, j'attends pas la prise de pouvoir et de l'impôt progressif sur le capital pour après-demain. C'est un livre de réflexion. Maintenant, si on veut vraiment trouver un débouché, le débouché, c'est peut-être que l'Europe, collectivement, est beaucoup plus riche que ce qu'elle s'imagine parfois. Tu vois, on a des dettes publiques et privées, c'est vrai, mais qui sont beaucoup moins importantes que tout ce qu'on possède. À ce jour, l'Europe, collectivement, possède beaucoup plus dans le reste du monde que le reste du monde possède en Europe. Donc on n'est pas la propriété de l'émir du Qatar, contrairement à ce qu'on entend parfois. Enfin, le club de foot peut-être, mais pas la totalité du capital, non. Donc l'Europe, ses fondamentaux économiques, comme disent les économistes, sont très bons, sont excellents. Ce sont nos institutions politiques qui sont totalement dysfonctionnelles. Alors je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle ou pas, mais au moins, on peut les changer. C'est-à-dire que potentiellement, je reste persuadé que si on avait une assemblée, peut-être pas au niveau des 27 pays européens, mais au niveau des pays de la zone euro qui sont avancés, qui pouvaient voter l'impôt et voter le budget, on arriverait à de bien meilleures solutions que celles qu'on arrive actuellement. Je ne sais pas si on voterait exactement l'impôt progressif sur le capital que je décris, mais au moins, on en voterait quelque chose. Et je crois que c'est cette espèce toute cette espèce d'inertie qu'on a actuellement vient d'abord du fait qu'il n'y a pas de proposition ni française ni allemande. Et je pense que c'est ça la plus grosse inertie du gouvernement actuel, c'est l'absence totale de propositions pour rendre l'Europe plus démocratique et d'avoir un vrai changement de traité qui aille vers plus d'union politique et démocratique au niveau européen. La souveraineté nationale sur l'impôt sur les sociétés, par exemple, c'est devenu un leurre. C'est-à-dire c'est quand on a 17 impôts sur les sociétés différents en zone euro, le résultat, c'est que vous avez plein de multinationales qui le payent nulle part. Donc appeler ça la souveraineté fiscale nationale, c'est une blague. C'est juste la souveraineté à tous se faire avoir. Donc il faut déléguer cette souveraineté à un niveau plus élevé. Enfin, moi, quoi qu'en pense mon ami Emmanuel Todd, je pense qu'il n'y a pas d'autre solution et qu'attendre la guerre comme mode de régulation de tout ça, Donc moi, c'est ça le premier problème que j'ai avec le gouvernement actuel, c'est son absence totale. Il s'est contenté de ratifier un traité européen négocié par le gouvernement précédent qui ne fait qu'approfondir un espèce de technocratie fédérale avec des recommandations de la Commission européenne aux gouvernements nationaux totalement inopérantes, alors qu'il faudrait aller vers l'union politique franco-italienne, allemande. Et je pense qu'on finira par y venir. Mais ça... Bon, après, si on oublie cette dimension européenne, mais j'ai quand même du mal à oublier cette dimension européenne, il y a des choses qu'on peut changer aux impôts en France. Et parmi les choses qu'on peut changer, mais c'est quand même des enjeux moins importants que ceux que je viens d'évoquer, il y a le fait qu'en France, on est le seul pays à ne pas être passé au prélèvement à la source sur l'impôt sur le revenu. On a le prélèvement à la source sur les cotisations sociales, sur la CSG, sur des masses beaucoup plus importantes que l'impôt sur le revenu. Mais justement, parce qu'en France, on a contourné cette question de la modernisation de l'impôt sur le revenu en utilisant beaucoup les caisses de sécurité sociale, les cotisations sociales, les prélèvements sociaux, qui sont en soi une bonne chose, hein, c'est un bon modèle social que ce modèle français, mais sauf qu'on pourrait en même temps avoir notre impôt sur le revenu prélevé à la source, qui éviterait des folies du type actuellement, vous versez des chèques de prime pour l'emploi à 8 millions de salariés avec un an de retard pour les rembourser de la CSG qui a été prélevée à la source un an plus tôt. Donc vous voyez, ce refus d'étendre le prélèvement à la source à l'impôt sur le revenu, alors qu'il s'applique à la CSG, aux cotisations sociales, amène à des espèces de folie où on est dans un véritable jeu de piste pour connaître son pouvoir d'achat, quoi, ce qui n'est pas normal. Hein. Donc parfois, les complexités fiscales sont là pour de bonnes raisons, et des fois, ça ne fait que miner, finalement, le consentement fiscal en France. Et je pense que c'est assez grave, parce qu'il faut bien voir que quand on fait le choix de mettre en commun 50% de nos richesses produites chaque année en impôts, cotisations, prélèvements, dépenses diverses, il y a quand même une nécessité de rendre des comptes et qui n'est pas une revendication de droite, qui est une revendication citoyenne. Je veux dire, c'est normal, à partir du moment où on met en commun 50% du revenu national chaque année, qu'on ait le système fiscal qui soit le plus simple possible, le plus transparent possible et que les gens puissent s'approprier. Et c'était ça le sens de notre petit bouquin sur la révolution fiscale il y a un an et demi, dont je continue de défendre toutes les propositions. Bon, simplement, voilà, c'est vrai que là, dans ce livre, l'objet est plus ambitieux. Et puis, bon, entre-temps, le gouvernement, là, s'est mis dans une situation qui rend quand même difficile de se lancer dans une réforme ambitieuse maintenant. Hein. Bon, maintenant, on va voir ce qu'il trouve à faire. Hein. J'ai pas d'informations particulières sur ce sujet. Ben, j'espère. Enfin, moi, en tout cas, je milite pour ça et j'essaye avec ce livre de contribuer à ça. Je pense qu'il y a eu une période d'optimisme de l'après-guerre où, effectivement, la question de la répartition est sortie un peu du radar parce qu'il y avait cet optimisme de la croissance partagée où tout le monde bénéficiait de la croissance. Donc, ça, c'est sans doute une partie de l'explication. Mais je pense quand même que l'explication principale, elle est la seconde que vous fournissez. Je ne sais pas si c'est l'excès de modélisation, mais en tout cas, disons, il y a une séparation de l'économie par rapport à l'histoire ou à la sociologie qui a été de pire en pire, et où finalement, cette étude historique de la répartition des richesses, plus personne ne l'a fait, parce que c'est à la fois trop historique pour les économistes, qui très souvent ne se soucient pas d'histoire, et en même temps aussi trop économique pour les historiens, qui ont tendance à ne plus se soucier de revenus, de patrimoine, de salaire. Donc je veux dire, c'est la faute des deux côtés. Hein. Je veux dire que c'est trop facile. Bon, moi, j'aime bien taper sur les économistes qui ont des prétentions de scientificité totalement sans rapport avec le fait qu'ils ne savent à peu près rien sur rien du tout. Et bon, moi, c'est ce qui m'a attiré dans ce domaine, c'est que j'ai eu l'impression qu'on partait de tellement bas qu'on pouvait espérer faire des progrès. Et oui, en rassemblant des données historiques, en faisant après la même chose qu'a fait Kuznets, mais sur 20 pays, sur un siècle. Mais ce qui demande, il n'y a aucune. Vous voyez, c'est très mécanique, il n'y a rien de particulièrement malin là-dedans. C'est juste en faisant quelque chose qui n'a pas été fait, on fait des progrès importants parce qu'on part vraiment de très bas. Et donc, les économistes ont une façon d'utiliser les mathématiques qui, parfois, est totalement de l'enfumage, disons, pour dire vite. C'est une façon de se donner des apparences de scientificité à peu de frais et de rejeter le monde extérieur en disant « Vous y comprenez rien, mais nous, on est vraiment très scientifiques », alors qu'en vérité, c'est juste une façon de dissimuler souvent la vacuité totale du propos. À l'inverse, moi, je regrette beaucoup que les sociologues, les historiens se soient dessaisis de ces questions économiques. Je veux dire, ça, il y a aussi une façon, parfois, des sociologues, des historiens, de dire « Ah non, mais nous, ce qu'on fait, c'est différent, on ne va pas s'intéresser à ça ». Je veux dire, chacun défend son pré carré aussi. Je pense que les questions d'argent, elles appartiennent à tout le monde et que tout le monde devrait s'en saisir et que, vraiment, dans l'interprétation historique de ces séries structures ou nature ou actions politiques ou événements, très franchement, je pense qu'on est tous à égalité et à un niveau assez bas, quoi. C'est-à-dire que, bon, interpréter ces séries et tout ça, moi, je veux dire, j'essaye de mettre tous les éléments sur la table. Franchement, il n'y a pas de technique particulière ou de savoir technique. Je pense que l'histoire sérielle est morte en partie pour des mauvaises raisons. C'est ce que je dis dans la conclusion du livre. C'est-à-dire que je pense qu'elle est morte en partie pour des raisons techniques. C'est-à-dire que c'est vrai que c'était beaucoup plus difficile, pour revenir au rôle de la technique et des nouveaux ensembles de données dans la réflexion en sciences sociales. Je pense que jusqu'aux années 70-80, c'est vrai que les gens fonctionnaient avec des fiches cartonnées. Bon, c'était très difficile de collecter des séries de données importantes. Et donc le résultat, c'est que les plus grands livres d'histoire sérielle des années 60-70, honnêtement, sont très pénibles à lire. Enfin, je ne sais pas si ce livre est agréable à lire, mais il est, je crois, un peu moins pénible, parce que les livres des années 70 d'histoire sérielle vous racontent toute leur... C'est une gigantesque annexe statistique, quoi. C'est-à-dire qu'ils vous racontent par le menu la construction de leurs sources dans tout le détail, et à aucun moment on arrive au moment de l'interprétation historique, parce qu'on a l'impression que les personnes en question dépensent toute leur énergie dans des aspects techniques, et à la fin, ils sont totalement épuisés au moment de raconter une histoire. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est plus facile, parce que la technique... Bon, voilà, on balance en ligne les fichiers Excel et les descriptions des sources, et puis on peut se concentrer dans le livre ou dans l'article sur l'interprétation de ce qu'on a. Ça permet, je pense, donc il y a cet aspect technique qui a joué un rôle. Il y a aussi un aspect plus politique, qui est, je pense, que l'histoire sérielle est morte avant d'avoir atteint le XXe siècle. Donc quand on étudie le XVIIIe, XIXe siècle, on peut plus ou moins être dans cette illusion d'une superstructure économique qui évolue indépendamment de l'histoire politique, de l'histoire culturelle, de l'histoire des représentations. Alors que quand on étudie le XXe siècle, bon, tous ces discours très théoriques sur l'État et les fondamentaux économiques volent en éclat immédiatement, parce qu'on voit que la politique, elle est partout, elle re-rentre par la fenêtre quand on veut la sortir, et qu'on est obligé de faire une histoire qui n'est pas seulement sérielle, qui est aussi une histoire des luttes politiques. Bon, je ne la fais sans doute pas assez, cette histoire des luttes, des dominations, mais je crois qu'elle est là, enfin j'essaye de la faire, pas, sans doute pas assez, hein, mais... En tout cas, elle est bien là, hein, partout, dans chacune de ces évolutions. Et on n'a pas le choix quand on étudie le XXe siècle. Je pense que les affrontements aussi autour du capitalisme, du communisme, ont parfois sclérosé un peu les conflits sur l'étude des inégalités et des rapports de capital. On manquait aussi de recul historique. C'est-à-dire, je pense qu'il y a certaines évolutions qu'on voit aujourd'hui depuis 2010-2013 qu'on ne voyait pas du tout comme ça en 90 ou 80. Simplement parce qu'il y a une reconstitution de patrimoine. Donc on ne pouvait pas complètement se rendre compte dans les années 70-80 où le capitalisme monopoliste d'État ou le capitalisme sans patrimoine privé apparaissait presque comme la nouvelle fin de l'histoire. Bon, bah maintenant, évidemment, c'est vu de 2013, les choses sont différentes. Donc voilà, moi je crois que je bénéficie surtout d'avoir plus de temps et plus de recul, mais j'espère que ça peut contribuer à forger des vocations, à travailler sur ces matériaux historiques pour la suite. Je pense que je les comprends et qu'en même temps, je suis en désaccord. C'est-à-dire que je les comprends parce que je pense que ça devient... la construction européenne et la construction zone euro en particulier devient de plus en plus difficile à défendre. Et elle est même... Enfin, elle est indéfendable sous sa forme actuelle. Et en même temps, le repli national, je pense, ne mènera qu'à des frustrations plus terribles encore. C'est-à-dire ceux qui s'imaginent qu'un retour à l'espace économique national, au protectionnisme, va d'un seul coup nous refaire connaître les 30 glorieuses et des salaires augmentant à 3 ou 4% par an, eh bien, je leur souhaite bien du plaisir le jour où ils seront au pouvoir et qu'ils constateront que le pouvoir d'achat stagne autant qu'avant, voire un peu plus, et où les emplois ne sont pas meilleurs qu'avant, voire un peu pire. Donc je pense que voilà, la tentation du repli national, elle est très forte. Elle va devenir de plus en plus forte. Et en même temps... elle ne résoudra aucun des problèmes, en particulier le problème R plus grand que G, que je vous décrivais tout à l'heure, il est tout aussi vrai dans l'espace national que dans l'espace international. Enfin, en un mot, les oligarques français ne sont pas plus sympathiques que les oligarques internationaux. Et donc, en fait, il y a cette illusion d'une reprise de contrôle au niveau de l'espace national, mais qui, je pense, est plutôt une illusion. Mais le système actuel devient très, très difficile à défendre. Donc, moi, je veux dire que c'est très compliqué. Enfin, je comprends ces positions et voilà, ça devient difficile à défendre.